tout effort pour faire quelque chose, par nous-mêmes entrave la foi? La foi regarde à Dieu qui seul opère et elle s'abandonne à sa puissance comme à une puissance qui nous a été révélée en Christ, par l'Esprit, elle laisse Dieu produire en nous les volontés et l'exécution. La foi doit agir, sans les œuvres, elle est morte, elle n'arrive à la perfection que par les œuvres. Ainsi que Paul le dit, en Jésus-Christ, ce qui importe, c'est la foi agissante par la charité. Galates 5, 6. Mais ces œuvres que la foi en l'action de Dieu inspire et produit sont bien différentes des œuvres dans lesquelles le croyant dépense ses meilleurs efforts pour n'arriver qu'à constater son échec, son impuissance. La vraie vie de sainteté, la vie de ceux qui sont sanctifiés en Christ, a ses racines et sa force dans le sentiment permanent d'une complète impuissance, dans la plénitude de repos d'une âme, qui se confie en la puissance et en la vie divine, enfin, dans un abandon complet de soi-même au Sauveur, dans cette foi qui consent à n'être rien afin qu'il soit tout. Il peut paraître impossible de discerner ou de décrire la différence qui existe entre le travail qui vient de nous-mêmes et le travail qui vient de Christ par la foi, mais si nous savons seulement que cette différence existe, si nous apprenons à nous défier de nous-mêmes et à compter sur Christ agissant en nous, le Saint-Esprit nous introduira aussi dans ce secret de l'Éternel. Les œuvres de la foi sont les œuvres de Christ. De même que la foi est entravée par les efforts personnels, de même elle l'est par le désir de voir et de sentir. Si tu crois, tu verras, le Saint-Esprit scellera notre foi, par une divine expérience, nous verrons la gloire de Dieu. Mais ceci est son œuvre, la nôtre est, lorsque tout paraît sombre et froid, en présence de tout ce que la nature et l'expérience témoignent, de croire cependant en Jésus à chaque instant, comme en celui qui est notre sanctification, et une sanctification parfaitement suffisante, en laquelle nous sommes rendus parfaits devant Dieu. Des plaintes sur ce que nous ne sentons pas, sur notre faiblesse, sur l'engourdissement qui nous gagne servent rarement à quelque chose, c'est l'âme qui renonce à s'occuper d'elle-même, de sa propre faiblesse ou de la force de l'ennemi, et qui ne regarde qu'à ce que Jésus est, à ce qu'il a promis de faire, c'est cette âme, dis-je, qui progressera en sainteté et qui connaîtra une marche joyeuse, de victoire en victoire. L'Éternel lui-même combattra pour vous. Cette pensée si souvent répétée en parlant du pays dont la possession avait été promise à Israël est l'aliment de la foi, dans le sentiment de sa faiblesse, en présence de ses puissants ennemis, la foi entonne le chant du vainqueur. Lorsque Dieu paraît ne pas faire ce pourquoi nous avions eu confiance en lui, c'est précisément le moment, pour la foi de se glorifier en lui. Il n'y a peut-être rien qui révèle davantage le vrai caractère de la foi, comme la joie et la louange. Vous faites à un enfant la promesse d'un cadeau pour le lendemain, immédiatement il vous dit « merci ». Et il est heureux? Le joyeux merci prouve combien réellement votre promesse est entrée dans son cœur. Nous pouvons être saints, parce que Jésus, le puissant, celui qui aime d'un amour infini est notre sainteté. La louange exprimera notre foi, la louange la prouvera aussi, la louange la fortifiera. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Alors il crura ses paroles, et ils chantèrent sa louange. La louange nous ramènera à la foi, nous verrons que nous n'avons plus qu'une chose à faire, aller de l'avant dans une foi, qui se confie sans cesse et qui loue sans cesse. C'est dans un attachement plein d'amour et vivant pour Jésus, un attachement qui se réjouit en lui et le loue sans cesse pour ce qu'il est pour nous, que la foi se prouve à elle-même, et qu'elle reçoit la puissance de la sainteté. Sanctifié par la foi en moi. Oui, par la foi en moi. C'est un Jésus personnel et vivant qui s'offre à nous, lui-même dans toute la richesse de sa puissance et de son amour, lui, comme l'objet, la force, la vie de notre foi. Il nous dit que si nous voulons être saints, saints toujours et en toutes choses, nous devons avoir une seule chose en vue, être toujours et entièrement plein de foi en lui. La foi est l'île de l'âme, la force par laquelle nous pouvons discerner la présence de l'invisible, lorsqu'il vient se donner à nous. Non seulement la foi voit, mais elle s'approprie, elle s'assimile les choses divines, aussi, que notre âme se recueille pour que le Saint-Esprit, qui habite en nous, vivifie et fortifie cette foi, pour laquelle il nous a été donné. La foi est l'abandon, la reddition de notre être tout entier, c'est l'acte par lequel nous nous livrons à Jésus, afin qu'il puisse faire son œuvre en nous, nous nous donnons à lui, afin de vivre de sa vie, et que sa volonté se fasse en nous. En accomplissant cet acte d'abandon, nous ferons cette expérience, que c'est lui qui se donne entièrement à nous, en prenant complètement possession de nous. La foi sera donc une puissance, la puissance d'obéissance, pour faire la volonté de Dieu, notre très sainte foi, la foi des saints. Et nous comprendrons combien est simple, pour le cœur droit, le secret de la sainteté, Jésus, lui seul. Nous sommes en lui, qui est notre sanctification, lui personnellement est notre sainteté, et la vie de la foi en lui, pour qui le reçoit et le possède, doit être nécessairement une vie de sainteté. Jésus dit, sanctifié par la foi en moi. Soyez saints, car je suis saint. Bien-aimé Sauveur, j'ai vu une fois de plus avec un cœur plein d'une respectueuse adoration ce que tu veux être pour moi. C'est en toi, et dans une vie de sainte communion avec toi que je puis devenir saint. C'est dans une vie de simple attachement à ta personne divine, dans une vie de foi en toi et d'amour pour toi, Jésus, d'abandon et de consécration à toi, que tu deviens mon tout, et que tu me rends participant de toi-même et de ta sainteté. Seigneur Jésus, je crois en toi, subviens à mon incrédulité. Je te confie ce qui reste en moi d'incrédulité, et je compte sur ta présence pour que tu en fasses la conquête et que tu la fasses disparaître de mon cœur. Mon âme regarde continuellement vers toi afin de voir toujours mieux combien c'est toi qui es ma vie et ma sainteté, tu élargis mon cœur, afin que je me réjouisse en toi comme en celui qui est mon tout, et que j'ai l'assurance que c'est toi-même qui prends possession de ce cœur et qui le remplit, comme un temple, de ta gloire. Tu m'enseignes à comprendre que quelque faible, humaine et décevante que puissent être mes expériences, ton Saint-Esprit est la force de ma foi, qu'il me fait grandir dans une confiance plus forte et plus profonde en toi, en qui je suis saint. Ô mon Sauveur, je prends la parole de ce jour, sanctifiée par la foi en moi, comme une nouvelle révélation de ton amour, et de ce que cet amour se propose de faire pour moi. En toi est la puissance de ma sainteté, en toi est la puissance de ma foi. Que ton nom soit béni de ce que tu m'as donné une place, parmi ceux dont tu parles quand tu dis, sanctifié par la foi en moi. Amen. Souvenons-nous que ce n'est pas seulement la foi qui se sert de Christ, pour la sanctification, mais toute foi vivante qui a le pouvoir de sanctifier. Tout ce qui nous jette souillés aux pieds de Jésus, tout ce qui exige de notre part une foi intense et simple, que ce soit une épreuve de foi, ou une prière de foi, ou une œuvre de foi, tout cela aide à nous rendre saints. Parce que tout cela nous met en contact avec Jésus, le Saint. De ce n'est que par le Saint-Esprit, que Christ et sa sainteté nous sont jour après jour révélés, faits nôtres en une possession véritable. Et la foi qui les reçoit est aussi du Saint-Esprit. Livrez-vous en simplicité de cœur et avec confiance à son action. Ne soyez point effrayés, comme si vous ne pouviez croire, vous avez en vous l'esprit de foi, vous avez par conséquent le pouvoir de croire. Et il vous est permis, que dis-je ? Vous pouvez demander à Dieu qu'il vous fortifie puissamment par son esprit dans l'homme intérieur, car la foi qui reçoit Christ est celle qui demeure et qui ne faiblit pas. 3. Je n'ai de foi que dans la mesure que j'ai l'esprit. N'est-ce pas désormais que ce qui m'est le plus nécessaire, c'est que je vive entièrement sous l'action du Saint-Esprit ? 4. Comme l'île en voyant est réceptif, cède à l'objet qui est placé devant lui afin d'en recevoir l'impression, ainsi la foi est l'impression, que Dieu produit sur l'âme quand il s'en approche. La foi d'Abraham ne fut-elle pas le résultat du fait que Dieu s'était approché de lui et lui avait parlé, l'impression que Dieu avait faite sur lui ? Recueillons-nous pour contempler le divin mystère de Christ, notre sainteté, sa présence attendue et adorée produira la foi ? C'est-à-dire que l'Esprit qui procède de lui dans ceux qui s'attachent à lui sera de la foi. 5. La sainteté en Jésus, et non par ton effort, la puissance du péché brisée par la grâce seule. La sainteté de Dieu en toi, sa beauté sur ton front, ce sera la joie de ton pèlerinage, ce sera ta portion ici-bas. 10. En sorte qu'ils reçoivent la rémission des péchés et un héritage parmi ceux qui sont sanctifiés par la foi en moi. Version révisée d'Oxford, 1881, autorisant l'intitulé de ce chapitre. 11. Les meilleurs commentateurs relient cette expression par la foi en moi, non point au mot sanctifié, mais attendent l'expression qu'ils reçoivent par la foi en moi. Mais ceci ne saurait aucunement affecter l'application au mot sanctifié lui ainsi, le texte nous dit que la rémission des péchés est l'héritage et la sanctification, qui nous qualifie pour l'héritage, tout nous vient par la foi. 12. Voir note. Saint en Christ. 19e jour. Sainteté et résurrection. Son fils, celui qui est issu de la postérité de David, selon la chair, et qui selon l'esprit de sainteté, a été désigné fils de Dieu d'une manière puissante, par sa résurrection d'entre les morts. Romains 1, 4. Ces paroles nous parlent d'une double naissance de Christ. Selon la chair, il est né de la postérité de David, selon l'esprit, il est le premier-né d'entre les morts. Comme il était un fils de David, en vertu de sa naissance physique, de même il a été déclaré fils de Dieu avec puissance, en vertu de sa résurrection, par l'esprit de sainteté. De même que la vie qu'il a reçue par sa première naissance a été une vie dans et selon la chair, avec toute sa faiblesse, de même la nouvelle vie qu'il a reçue par sa résurrection a été une vie dans et selon la puissance de l'esprit de sainteté. L'expression « l'esprit de sainteté » est très spéciale. Ce n'est pas le mot ordinaire pour la sainteté de Dieu qui est employé ici, comme dans Hébreux 12, 10, pour décrire la sainteté d'une manière abstraite et comme l'attribut d'un objet, mais un autre mot employé aussi 2 Corinthiens 7, 1, 1 Thessaloniciens 3, très exprimant l'habitude de la sainteté en action, la sainteté pratique, la piété. Paul emploie ce mot parce qu'il désirait mettre l'emphase sur la pensée que la résurrection de Christ était clairement le résultat de cette vie de sainteté, de cette sanctification de soi-même dont le point culminant fut sa mort. Ce fut par la puissance de l'esprit de la vie de sainteté dont il avait vécu qu'il ressuscita des morts. Il nous enseigne que cette vie et cette mort par lesquelles il s'est sanctifié lui-même pour nous, et sur lesquelles seul repose notre sanctification, furent la source et le fondement de sa résurrection, comme aussi de la déclaration que faisait avec puissance cette résurrection, c'est que Christ est le Fils de Dieu, le premier-né d'entre les morts. La résurrection fut le fruit que porta cette vie de sainteté. La vie de sainteté devient donc la propriété de tous ceux qui sont participants de la résurrection. La vie de ressuscité, si vous êtes ressuscité avec Christ, et l'esprit de sainteté sont inséparables. Christ s'est sanctifié lui-même dans sa mort, afin que nous soyons sanctifiés en vérité, lorsque par la vertu de l'esprit de sainteté, il fut ressuscité d'entre les morts, cet esprit de sainteté s'est révélé comme la puissance même de cette vie de ressuscité, et la vie de ressuscité, comme une vie de sainteté. Comme croyant, vous avez part à cette vie de ressuscité. Résurrection, anglais. Vous avez été régénéré par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Vous êtes ressuscité avec Christ, dès lors vous êtes exhorté à vous considérer comme vivant à Dieu, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Mais la vie ne peut agir avec puissance que lorsque vous cherchez à la connaître, à vous y livrer, à la laisser prendre pleine possession de vous-même. Et si c'est là que vous voulez arriver, une des choses les plus importantes à réaliser pour vous, c'est que comme ce fut par l'esprit de sainteté, que Christ fut ressuscité, ainsi l'esprit de cette même sainteté doit être en vous le cachet et la puissance de votre vie. Étudiez-vous à connaître et à posséder l'esprit de sainteté tel qu'il s'est manifesté dans la vie de votre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et en quoi consistait cet esprit? Le secret de cet esprit, nous le trouvons dans cette parole. Voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. C'est par l'exécution de cette volonté, telle que Christ l'a accomplie, que nous avons été sanctifiés une fois, pour toutes par l'oblation de son corps. C'est ainsi que Christ se sanctifiait dans sa vie et dans sa mort, c'est là ce que l'Esprit de sainteté a produit en lui, c'est aussi ce que l'Esprit de vie, qui est en Jésus-Christ, veut faire en nous. Une vie selon les volontés de Dieu est une vie de sainteté. Cherchez de tout votre cœur à saisir ceci clairement. Christ est venu pour nous révéler ce que devait être la vraie sainteté dans les conditions de la vie et de la faiblesse humaine. Il est venu pour l'accomplir pour vous, afin de pouvoir vous la communiquer par son Saint-Esprit. Si vous ne la saisissez pas avec intelligence et de tout votre cœur, le Saint-Esprit ne peut agir en vous, il ne peut la produire en vous. Cherchez à vous en emparer sérieusement, la volonté de Dieu acceptée sans hésitation, voilà la puissance par excellence de sainteté. C'est là le point de départ de toute tentative de devenir saint, comme Christ lui-même est saint, dans et par sa sainteté. Plusieurs cherchent à ne prendre dans la vie de Christ ou dans son image, pour les imiter, que quelques parties de cette vie et de cette image, tandis qu'ils manquent grandement dans d'autres parties. Ils n'ont pas vu que le renoncement, auquel Jésus les appelait, vraiment un renoncement à soi-même, dans toute l'étendue du terme. Notre volonté propre ne doit l'emporter sur aucun point quelconque. Jésus faisant seulement la volonté de son Père, voilà le Maître qui doit dominer sur nous, et non notre moi. Être parfait et bien convaincu, et demeurer ferme dans tout ce que Dieu veut, Colossiens 4, 12, voilà quelle doit être l'ambition, la prière, l'attente constante du disciple de Jésus. Il n'y a pas à craindre que la volonté de Dieu ne nous soit pas clairement révélée en toute chose. Si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il connaîtra. Le Père ne laissera pas l'enfant disposé à obéir dans l'ignorance de sa volonté. Et il n'y a pas à craindre que lorsque la volonté du Père nous sera révélée, il nous soit impossible de la faire. Quand une fois la douleur de nos chutes et de notre péché nous aura jetés dans cet état que décrit saint Paul au chapitre 7 des Romains et que nous saurons ce que c'est que de prendre plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, jusqu'à faire entendre ce cri « Malheureux que je suis !» Qui me délivrera du corps qui cause cette mort ? La délivrance viendra sûrement par Jésus-Christ. Le Saint-Esprit ne produit pas seulement en nous la volonté, mais aussi le faire, où le croyant ne pouvait que soupirer et dire « Je ne fais pas le bien que je veux », il donne la force, avec le cantique, la loi de l'Esprit qui donne la vie, en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Dans cette foi ferme qu'il est possible de connaître et de faire la volonté de Dieu en toutes choses, prenez de Christ, en qui vous êtes, ce principe dirigeant de votre vie, « Je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté ». C'est le principe de la vie de celui qui est ressuscité avec Christ. Sans cette disposition, Jésus n'aurait jamais été ressuscité d'entre les morts. C'est le principe de la vie nouvelle en vous. Acceptez-le, étudiez-le, réalisez-le, mettez-le en pratique. Plus d'un croyant a fait cette expérience que quelques simples paroles de consécration, exprimant, comme celle que nous venons de citer, « Je viens, ô Dieu ». Pour faire ta volonté, la ferme intention de faire en toute chose la volonté de Dieu, ont été pour eux comme une prise de possession de la joie et de la puissance d'une vie de résurrection, inconnue auparavant. La volonté de Dieu est l'expression complète de ses perfections morales, de sa sainteté. Prendre sa place au centre même de cette volonté, la vivre, être porté et soutenu par cette volonté, a été la puissance de cette vie de Jésus, que la mort n'a pu retenir dans la tombe, puissance qui ne pouvait autrement qu'éclater dans la gloire de sa résurrection. Or, ce que cette puissance a été pour Jésus, elle le sera aussi pour nous. La sainteté, c'est la vie, ceci est l'expression la plus simple de la vérité contenue dans notre texte. Il ne peut y avoir de sainteté, jusqu'à ce qu'il y ait une vie nouvelle implantée. Et la vie nouvelle ne peut se manifester comme une puissance de résurrection, elle ne peut porter de fruits qu'en croissant en sainteté. Aussi longtemps que le croyant vit de cette vie partagée, dont une part est de la chair et une part de l'esprit, une part pour soi-même, une part pour Christ, c'est en vain qu'il cherche la sainteté. C'est la vie nouvelle qui est la vie sainte, c'est la parfaite conception de cette vie par la foi, l'abandon complet de toute notre conduite à cette vie sainte, qui sera la route royale de la sainteté. Jésus a vécu, il est mort et ressuscité, afin de nous préparer une nouvelle nature, une nature que nous devons recevoir jour après jour dans l'obéissance de la foi. Nous avons revêtu l'homme nouveau, créé à l'image de Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Éphésiens 4, 24. Il n'y a plus. Cette vie n'est pas semblable à la vie de la nature, un principe aveugle, inconscient, accomplissant involontairement son idéal, dans une obéissance qui ne résiste pas à la loi de son être. Dans cette vie nouvelle, il y a l'esprit de vie, qui est en Jésus-Christ, l'esprit de sainteté, le Saint-Esprit demeurant en nous comme une personne divine, entrant en communion avec nous et nous introduisant dans la communion du Christ vivant. C'est cela qui remplit notre vie d'espérance et de joie. Le Sauveur ressuscité souffla de son esprit sur ses disciples, l'esprit, lui, apporte le divin ressuscité dans notre cure, il l'y introduit comme un ami personnel, un guide vivant, et comme celui qui fortifie. L'esprit de sainteté, c'est l'esprit, la présence, la puissance du Christ vivant. Jésus disait de l'esprit. Vous le connaissez. N'est-ce pas là ce dont nous avons le plus grand besoin, connaître le Saint-Esprit, l'esprit de Christ, l'esprit de sa sainteté et de notre sainteté? Comment pouvons-nous marcher selon l'Esprit et suivre ses directions, si nous ne connaissons ni lui, ni sa voie, ni sa manière de conduire et d'agir? Apprenons encore une autre leçon de notre texte. C'est du tombeau de notre chair et de notre volonté propre que l'Esprit de sainteté éclate en puissance de résurrection. Nous devons accepter la mort de la chair, la mort du moi, de sa volonté et de son action propre, comme point de départ de notre expérience de la puissance de l'Esprit de sainteté. En vue de chaque conflit avec le péché, de tout exercice de foi ou de prière, nous devons entrer dans la mort de Jésus, dans la mort à nous-mêmes. Et comme ceux qui disent avec l'apôtre, non que nous soyons capables de rien concevoir par nous-mêmes, nous devons, dans une foi paisible, attendre que l'Esprit de Christ fasse son œuvre en nous, puisque c'est de Dieu que nous vient notre capacité.